L'association Torah Box et les productions La Date vous présentent toute l'histoire de Pourim, pour les petits comme pour les plus grands. Profitez bien et Pourim Sameach. Première partie, l'histoire du festin de Belshazzar.
Le monde existe depuis longtemps déjà, et il s'est passé un tas de choses depuis sa création. Pourtant, certaines histoires n'ont pas été oubliées. De génération en génération, on les raconte, et elles ont pu arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Elles sont toujours présentes dans nos maisons. Voici le récit de l'une d'entre elles. Il fut un temps où la France et l'Italie n'étaient ni puissantes ni connues. Le centre du monde, là où régnaient les grands, était ailleurs. Cet endroit se nommait la Mésopotamie, qui est aujourd'hui le Moyen-Orient. Au centre, à Jérusalem, le Beth Hamikdash, splendide temple construit par le grand roi Salomon, recevait les offrandes des peuples du monde entier. Hélas, le comportement des Juifs entraîna leur perte. Le Créateur du monde laissa les rois de Babel s'emparer du pays d'Israël. Nebuchadnezzar, roi de Babel, après avoir détruit le Saint-Temple, exila quelques 10 000 des plus brillants jeunes gens du peuple humilié vers le Nouvel Empire. Et Babylone devint la ville la plus puissante du Moyen-Orient. Quelques années plus tard, à la suite de son père, sur le trône de la grande métropole, Belshazzar, roi de Babylone, se préparait dans son palais à de grands événements. En effet, chut, le voici qui arrive.
Eh bien, maître chambellan, avez-vous terminé les préparatifs du festin ?
Tout à fait, votre excellence, ce sera somptueux.
Et que dit le peuple de cette grande fête ?
Il se réjouit, votre excellence, mais...
Mais quoi ?
Comment dire ?
Parlez donc, maître chambellan.
À vrai dire, votre excellence, le peuple ne sait pas pourquoi vous organisez un si grand banquet.
Voilà une bien bonne question. Faites venir tous mes messagers. Messagers, prenez des notes, je vous prie. Mon cher peuple, moi, Belshazzar, roi de Babylone, j'annonce la fin de la malédiction des Juifs sur nous. En effet, mon illustre père, Nebuchadnezzar, a conquis et détruit Jérusalem il y a 29 ans. Et à cette époque, le navi juif, Irmiaou...
Excusez-moi, votre excellence, mais le peuple ne sait pas ce qu'est un navi.
Dites-leur que c'est un homme qui, de par sa perfection morale, est proche de Dieu et peut annoncer des événements à venir. Et maintenant, cessez de m'interrompre. Donc, le navi Irmiaou avait annoncé que 70 ans après la destruction de Jérusalem et de son temple, le roi de Babylone serait puni, lui et tout son peuple. Or, de grands savants ont déclaré que votre ancien roi était monté sur le trône voilà 70 ans. Et il ne s'est rien passé de désastreux pour notre pays. C'est là la preuve absolue que Irmiaou s'est trompé. Pour fêter cette victoire totale sur les Juifs, je décide d'organiser un grand festin. Voilà ce que vous annoncerez de par le pays.
Que votre volonté soit exaucée, votre majesté.
Cependant, les choses se déroulèrent très mal pour Belshazzar. Au milieu du festin, sur le mur de chaux face à la table royale, les doigts d'une main apparurent. Ils inscrivirent les mots suivants. Mané, Mané, Takel ou Farcine. Terreur générale dans l'assemblée, et personne ne savait traduire l'inscription. Heureusement, la reine se souvint d'un des exilés de Jérusalem, prénommé Daniel, qui était particulièrement intelligent, doué dans toutes les sciences et qui savait interpréter les rêves. Elle le fit venir et il lut l'inscription.
Cette nuit même, Belshazzar, ton royaume sera partagé et te sera enlevé par Dariavesh le Perse.
Quoi ? Le roi du pays voisin ? Ce misérable va envahir notre royaume ? C'est impossible !
Au secours ! On envahit la ville ! Aux armes !
Vous imaginez la terreur qui envahit alors le roi. Il n'eut pas le temps de se défendre, car pendant que le peuple buvait et mangeait, les Perses avaient déjà envahi toute la ville. Dans la chambre du roi, une petite fille de 12 ans dormait paisiblement. Elle s'appelait Vashti. Cependant, son sommeil fut de courte durée. Au bruit des combats, elle se leva en sursaut et se jeta aux pieds d'un homme qu'elle croyait être son père. Mais c'était Dariavesh en personne. Attendri par son jeune âge, il décida de l'emmener en Perse pour la marier plus tard avec son petit-fils, Ahasvérus.
Deuxième partie, l'histoire de Daniel et la fosse aux lions.
Donc, Dariavesh rentra chez lui en grand vainqueur. Un autre prisonnier l'accompagnait, c'était Daniel, dont il aima tant les conseils qu'il le plaça plus haut que tous ses autres ministres. Alors, comme bien souvent dans tous les royaumes, les conseillers du roi le jalousèrent et projetèrent de le tuer. Leur plan était simple. Ils allaient faire voter la loi suivante.
Tout homme qui n'adressera pas toutes ses prières à notre bon roi sera jeté dans la fosse aux lions.
Or, Daniel priait Dieu 3 fois par jour, et cette loi n'allait pas l'empêcher de continuer. Il fut vite arrêté et jeté dans la fosse aux lions. Quand le roi apprit la nouvelle, il fut très triste, car il s'était attaché au jeune homme. Dariavesh, roi de Perse, jeûna jusqu'à l'aube, et au petit matin, éploré, se rendit à la fosse aux lions.
Daniel, serviteur de Dieu, c'est le roi Dariavesh qui te parle. Es-tu encore en vie ?
Mon cher roi, Dieu m'a sauvé la vie. Et les lions sont restés loin de moi, car j'ai été trouvé innocent devant Dieu, et je le suis aussi devant vous.
Oui, Daniel, tu es innocent et ton Dieu est grand. Tout mon peuple, désormais, respectera les tiens, et dans la paix, nous prierons Dieu.
Après ces événements incroyables, le roi qui était vieux nomma comme successeur son gendre, Koresh. Il lui ordonna de reconstruire le temple des Juifs à Yerushalayim. Koresh travailla à cette tâche jusqu'à sa mort et son fils Ahasvérosh s'installa sur le trône.
Troisième partie, l'histoire du festin d'Ahasvérosh.
Au petit matin dans la ville de Shushan, capitale du royaume perse, le roi Ahasvérosh était en pleine réunion.
Alors, ministre de l'Agriculture, comment vont les récoltes ?
Bien, votre grandeur, bien.
Et la pêche, ministre des Ports, est-elle bonne ?
Excellente, votre seigneurie, excellente.
Parfait. Quelles sont les dernières nouvelles, ministre des Affaires étrangères ?
Majesté, nous avons reçu des lettres accusant les Juifs de vouloir se révolter. On ne peut plus continuer la reconstruction de leur temple. C'est dangereux.
Cher ministre, n'oubliez pas que c'est moi qui décide de tout ici. Et je dis que c'est dangereux et inutile de reconstruire ce temple. Les Juifs m'agacent. Mes précieux astrologues, que disent les étoiles aujourd'hui ?
Toujours la même chose, sire. Les étoiles annoncent qu'un Juif prendra votre place ainsi que la couronne.
Aïe, aïe, aïe. Et la malédiction du navire Miaourou, où en est-elle ?
D'après nos savants calculs, dans 6 mois, cela fera exactement 70 ans que Nebuchadnezzar a détruit Yerushalayim et son temple. Et si d'ici là, rien n'arrive, la malédiction sera nulle et non avenue.
Bon, c'est décidé. Dans 6 mois, je me marie avec ma promise, Vashti, la petite fille de Nebuchadnezzar, que tous mes serviteurs commencent à préparer le plus magnifique des banquets de l'histoire de Perse.
Pendant 6 mois, rien de grave n'arriva aux Perses. Et le jour du grand festin arriva enfin. Mais alors là, chers amis, vous ne pouvez imaginer la grandeur de ce festin. Il ne dura pas un jour, ni même une semaine. Non, non, le peuple entier festoya 180 jours, vous rendez-vous compte. Ahasvérosh étala son immense fortune. Tous les couverts étaient d'or ou d'argent. Les nappes en étoffes rares et tous étaient invités. Les ministres, les cheiks, les militaires, les serviteurs et tout le peuple de Shushan. Durant 6 mois, les invités mangèrent et burent à volonté. Le vin qui coulait à flots dans les coupes d'or avait l'âge de celui qui buvait. Ahasvérosh, pour affirmer la fin de la malédiction de Yirmiyahou, avait revêtu les vêtements du grand prêtre de Jérusalem. Les Juifs de la capitale étaient très en colère, mais on les força à venir. Vashti aussi avait organisé un festin pour les femmes, car dans son grand orgueil, elle était sûre qu'Ahasvérosh n'était roi que grâce à elle, petite fille du grand Nebuchadnezzar. Elle avait même décidé de revêtir elle aussi les habits du grand prêtre. Bref, elle ne se prenait pas pour n'importe qui. Au début, le festin se déroula tranquillement. le roi s'occupait sérieusement de ses invités. Mais au bout d'un certain temps, Achashverosh commença à manger et surtout à boire. Si bien qu'il arriva ce qui devait arriver, il se saoula. Et sous l'effet de l'alcool, il ordonna quelque chose de très effronté.
« Que Vashti, la reine, vient donc, vêtue de sa couronne, danser devant nous ?»«
Vous plaisantez, Majesté ?»«
Mais pas du tout. Elle est très, très belle. »
La réaction de la reine fut terrible.
« Quoi ? Danser devant les nobles ? Le roi est-il donc si stupide ? J'enrage ! À quelle toupée ! Allez lui dire que dans la maison de mon père, il aurait tout juste été bon pour nettoyer les écuries. Dites-lui donc aussi que mon père pouvait boire 10 fois plus que lui sans donner d'ordre aussi stupide. »
Le palais tomba dans un lourd silence. La situation était délicate. Vashti était passible de la peine de mort pour avoir désobéi au roi. Mais Achashverosh l'aimait et regrettait déjà ses paroles. Ses conseillers qui le connaissaient lui conseillèrent donc d'épargner la reine. C'est alors que Aman, le nouvel Arrajdarpenaya, se leva.
Roi, mon grand roi, vous vous égarez à vouloir épargner une effrontée comme Vashti. Elle ne vous apportera que des soucis. Regardez, dès demain, elle mettra en place un MLF.
Un quoi ?
Un mouvement de libération de la femme pour tout diriger dans la famille, gérer l'argent, payer moins d'impôts. Enfin, l'enfer. Roi, mon grand roi, brûlez cette reine bien vite pour en faire un exemple et envoyer dans tout le pays des lettres pour rappeler qu'une femme doit obéir à son mari.
Percé par les paroles sournoises du nouveau ministre et sous l'effet du vin, Achashverosh ordonna l'exécution de Vashti. En général, les lendemains de fête sont difficiles. Mais pour Achashverosh, ce fut horrible.
Vashti, Vashti, Sniff, où es-tu? Qu'ai-je fait? Ma reine me manque. Vashti.
Du matin au soir, le grand roi de Perse déambulait dans les couloirs du palais et rien ne le consolait.
Votre Majesté,
que me veux-tu, serviteur ?
J'ai de la peine de voir le roi dans cet état. Il existe tant de si belles jeunes filles dans le royaume. Peut-être encore mieux que Vashti, plus gentille, moins orgueilleuse. Pourquoi ne pas toutes les convoquer devant sa majesté pour que vous choisissiez une nouvelle reine ?
Me choisir une nouvelle reine ? Oui, il est temps. Tu as raison, mon bon. Qu'on envoie chercher pour le roi les plus belles filles du royaume.
Quatrième partie. L'histoire de la reine Esther.
Depuis que les envoyés du roi parcouraient tout le pays pour ramener les plus belles femmes au palais, une folie douce s'emparait des jeunes filles. Toutes voulaient être choisies. Mordechai était un homme âgé et plein de sagesse. Il avait fait partie des exilés de Yerushalayim et faisait à l'époque partie du grand tribunal des Juifs, le Sanhédrin. Cet homme était fâché avec le roi depuis le festin qu'il avait donné. Ça avait été scandaleux et si triste de voir ainsi les vêtements du Kohen Gadol, le grand prêtre, profanés. Mordechai hébergeait chez lui la jeune Hadassa. La malheureuse avait perdu son père et sa mère. Et Mordechai était sa seule famille. Hadassa était d'une beauté rare, et depuis l'édit du roi, elle se cachait. Elle avait peur d'être emmenée vers le harem du roi et de ne plus pouvoir revenir vers ses proches. Et pourtant, un jour...
Ouvrez cette porte immédiatement! Nous savons que vous cachez une jeune fille! Voilà, voilà, du calme!
Hadassa, ma fille, tu vas être obligée de partir. Mais ne t'inquiète pas, je viendrai tous les jours prendre de tes nouvelles.
Mais...
Il n'y a pas de mais! Il ne faut surtout pas qu'Achashverosh apprenne que tu es juive. Dorénavant, pour tout le monde, tu t'appelles Ishtar. C'est un nom perse très courant. Sois courageuse.
Ouvrez cette porte immédiatement! Voilà!
Mordechai, non!
Allez préparer vos affaires et suivez-nous.
On l'emmena au palais. Le responsable de toutes les jeunes filles, Haggai, la remarqua rapidement pour sa beauté et sa gentillesse. et ce qui devait arriver arriva. Le jour où elle fut présentée à Ahasvéros, un silence solennel envahit la salle du trône. Le roi était médusé par sa beauté et sa décision fut vite prise. Ce serait Ishtar, la nouvelle reine du royaume perse. La vie d'Adassa fut bouleversée. Elle vivait dans le secret de ses origines et ce n'était pas tous les jours facile. Entre nous, c'est pour cela qu'on l'a appelée Esther. Cela signifie « cachée » en hébreu.
Tout premier prénom est Adassa. Il rime avec douceur et distinction. Élevé par son oncle dans sa maison, si discrète qu'on ne la voyait pas. Chassée de son pays par les puissants, elle n'oublie pas sa ville Jérusalem. L'annonce que le roi veut une reine la plonge alors dans un très grand tourment. Venez entendre l'histoire de la dame aux plusieurs prénoms. Dans toutes les histoires, elle est signe de bénédiction. Son second prénom était Ishtar. Reine de toute la Perse et alentour. Si la magnificence est son atout, elle est mélancolique quand vient le soir. Couronnée d'une façon unanime, elle risque pourtant de perdre la vie sans être convoquée. Elle surgit pour dénoncer Aman et tous ses crimes. Venez entendre l'histoire de la dame aux plusieurs prénoms. Dans tous les souvenirs, elle est signe de bénédiction. Enfin, Esther est son dernier prénom. C'est dans un grand secret qu'elle a dû vivre. Elle ne pouvait pas prier dans un livre. Sur elle reste un mystère, une allusion. De toutes ses forces, elle a lutté pour que son peuple vive enfin tranquille. Qu'à son pays on ne soit jamais hostile, et ce malgré son choix de vie forcé. Venez entendre l'histoire de la dame aux plusieurs prénoms.
Ishtar, ma chère reine, mes conseillers se sont plaints. Personne dans le palais ne sait d'où tu viens. Et les mystères ne sont jamais bons dans un royaume.
Ce sont vos conseillers qui ne sont pas bons, Majesté. Trop souvent, ils vous ont détourné du droit chemin. C'est à cause d'eux que la reine Vashti est morte. Et si vous continuez à les écouter, bientôt, moi aussi je serai morte.
Mais non, voyons, ne dis pas de bêtises. Cependant, tu as raison. Mais il est difficile de trouver de bons conseillers.
Si vous me permettez...
Parle, mon enfant, sois sans crainte.
J'ai entendu parler d'un homme très droit et savant.
Comment se nomme-t-il ?
Mordechai, votre grandeur.
Eh bien, puisque tu le recommandes si chaudement, qu'il en soit ainsi.
Mordechai fut nommé juge des affaires du peuple à la porte du palais et put ainsi communiquer fréquemment avec Esther.
Cinquième partie, l'histoire du complot.
Or, par une belle nuit d'été...
Tiens, les deux soldats parlent tarse. C'est une langue rare que j'ai apprise avant le turc et après le chinois. Mais que disent-ils ?
Vladivostok, j'ai apporté mon samovar, vodka de bisous, très gros poison.
Mon Dieu, ils veulent empoisonner le roi. Heureusement qu'ils ne savent pas que je comprends parfaitement leur langue. Ils m'auraient sans doute tué aussi.
Rapidement, un messager informa Esther, qui envoya l'information au roi.
Longue vie au roi de Perse. Votre nouveau conseiller Mordechai a surpris un complot contre vous. Les gardes Bigtan et Teresh veulent vous empoisonner.
L'enquête fut vite menée et les coupables découverts. On inscrivit l'événement dans les archives nationales.
Moi, l'exilé d'Israël, depuis la chute du temple, je vais de pays en pays comme un orphelin. Mais alors que j'habitais dans ma très chère contrée, en tant que grand juge, il m'a fallu apprendre l'anglais, le grec, le russe, le perse et le roumain. Car voici, je suis un polyglotte. L'anglais, le grec, le russe, le perse et le roumain, l'espagnol. Mais oui, je suis un polyglotte. Et ensuite, avec ma nièce, on est arrivé en Perse. Achashverosh était déjà un roi très puissant. Cet effronté avait fait un banquet gargantuesque et il avait revêtu les habits du grand prêtre. Malheur, my gosh, oy vai, orgout et halila. Si je suis un polyglotte, malheur, ma gauche, oy vai, orgout et halila. Mais oui, je suis un polyglotte. Maintenant Kadassa est couronné reine Ishtar, Il me faut la protéger des affaires malfamées. Mais c'est alors qu'à la porte du grand royaume j'entends les gardes Bictan et Teresh parler d'Ars couramment. Trahison, leur complot, je les compris mot à mot. Heureusement que je suis un polyglotte. Trahison, leur complot, je les compris mot à mot. Mais oui, je suis un polyglotte.
Sixième partie, l'histoire d'Aman.
Après ces événements, Ahasvérosh décida de faire de l'ordre dans l'organisation de sa cour. Il est bon, en effet, pour un roi de montrer à ses conseillers que lui seul décide comment gérer le royaume. Or, le conseiller le plus mielleux, celui qui complémentait le plus le roi, se nommait Aman. C'était lui qui avait encouragé la mise à mort de Vashti. Et puis, il présentait bien, il était ambitieux. Ainsi, le roi Ahasvérosh nomma Aman premier ministre. Il l'éleva au-dessus de tous les Ahasdarpenaya de son royaume. Mais le peuple n'aimait pas Aman, et un décret du roi dut les contraindre à se prosterner devant lui. Quiconque rencontrait le commandeur des Ahasdarpenaya, Aman, devait se prosterner à terre et le saluer avec toutes les plus grandes marques de respect. Aman était un homme orgueilleux et cette promotion le rendit carrément insupportable.
Après le roi, c'est moi l'homme le plus important de tout le pays. Je suis le plus intelligent, le plus fort, le plus beau, le plus malin. C'est moi, 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 rien que moi. En fait, c'est vraiment par accident que je ne sois pas de sang royal. Je sais tellement bien commander. Faites tous attention à vous, Tataristaboum, ma pauvre ou riche, méfiez-vous, Tataristaboum, c'est moi, man plein de sous, Tataristabimamboum, qui défile devant vous, Tataristaboum, et accroupillez, mettez-vous, Tataristaboum. Et à plat ventre et à genoux, Tataristaboum, ne levez pas votre tête, Tataristabimamboum, devant le fils d'Amalek, Tataristaboum. Tiens, voilà le grand Ahasdarpenaya militaire.
Oh, commandeur de tout l'Ahasdarpenaya, Aman, je m'efface devant votre infinie grandeur. Que vive sa magnificence de longues années, que les conquêtes parsèment votre destin, que...
C'est assez, mon bon, tu peux rentrer chez toi. Vlan, tiens, voilà le juge des affaires du peuple. Paix sur moi, Mordechai.
Il n'y a pas de paix pour les méchants.
Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ?
Je dois partir, j'ai des affaires à juger.
À moi ! À ma grandeur ! Il a osé ! Il doit mourir ! C'est un crime de lèse ! Ahasdar, partage ta patata ! Secrétaire de ma dignité personnelle, je veux et j'exige un dossier complet sur le dénommé Mordechai demain. Sur mon bureau, je veux tout savoir sur lui, tout.
Le lendemain, Aman lut minutieusement le dossier sur Mordechai. C'était un des juifs exilés de Yerushalayim. Il avait été un des 70 sages de la Grande Assemblée. C'était un homme très bon et affable, et il saluait tout le monde avec gentillesse. Son seul maître était le Créateur du ciel et de la terre. Aucun doute pour Aman. Cet homme devait mourir. Malheureusement, la folie d'Aman ne s'arrêta pas là. À travers Mordechai, c'est tout le peuple juif qui avait été effronté. Tous devaient mourir. Le regard d'Aman s'obscurcit. Sa décision l'avait rendu définitivement méchant. Il s'enferma dans sa cave secrète, là où reposaient ses trésors. Il alluma de drôles d'herbes et saisit une vieille paire de dés qu'il jeta au sol.
Le sort en est jeté, moi, Aman, premier Arrasdar Penaïa du roi, déclare par tirage au sort que le 13e jour du 12e mois de l'année Mordechai sera mis à mort, ainsi que tout son peuple. Tous les juifs, puisqu'ils ne se prosternent que devant leur dieu, seront détruits et exterminés. Je vais de ce pas demander une audience au roi.
Roi, mon grand roi, comment allez-vous ?
Bien, mon cher Aman, que me veux-tu ?
Que pensez-vous d'un peuple qui n'obéit pas au roi ?
Mais ça n'existe pas.
Imaginez, imaginez. Alors, que pensez-vous ?
C'est sans doute mal.
Et que pensez-vous d'un peuple aux coutumes étranges et différentes des nôtres ?
Mais ça n'existe pas.
Imaginez, imaginez, mon roi.
C'est bien dérangeant.
Et si ce peuple était éparpillé et dispersé dans tous les pays de ton empire ?
Mais ce n'est pas le cas.
Mais imaginez donc.
Il faudrait agir.
Roi, mon grand roi, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer.
Quoi ?
Ce peuple existe bel et bien.
Non.
Si.
Pas possible.
Et pourtant, si. Si vous vous souciez du bien-être de l'Empire, il est de votre devoir de les exterminer.
Exterminer tout un peuple ? Allons, allons, je suis responsable de mes sujets.
Et disons, si je voulais acheter 10 000 lingots d'argent pur, hein ?
Ahasvéros, loin d'être bête, avait compris qu'Aman parlait des enfants d'Israël. Et en fait, il avait peur de la prédiction de ses astrologues qui lui avaient annoncé qu'un juif porterait sa couronne.
Garde ton argent, prends mon sceau royal et agis comme bon te semble.
Aman avait déjà tout préparé. Les ordres furent envoyés de par tout le royaume, depuis Shushan jusqu'aux provinces les plus reculées. Ordre était donné de par le roi de détruire, exterminer et anéantir tous les juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, et de faire main basse sur tous leurs biens. Trop heureux de réaliser son rêve, Aman proposa au roi de trinquer.
Septième partie, l'histoire de la prière qui s'élève.
Le premier homme au courant du malheur fut Mordechai. La nouvelle le frappa violemment. Il se sentait responsable des Juifs de Shushan. Toute la communauté l'appréciait et il donnait régulièrement des cours aux grands et aux petits. Qu'allaient-ils tous devenir ? Désespéré, Mordechai déchira ses vêtements en signe de deuil. Il décida d'aller voir chaque famille juive de la ville pour l'encourager à prier. Ainsi, une seule et unique voix s'éleva des maisons juives. Et progressivement, cette voix s'amplifia dans toute la ville. Elle sautait de toit en toit, chaque fois renforcée par d'autres voix qui priaient. Cette prière unique grandit tant et tant qu'elle arriva au palais du roi. La reine Ishtar était en train de se faire coiffer par une de ses suivantes.
Reine, entendez-vous cette rumeur qui plane ?
Oui, elle me rappelle quelque chose, mais quoi ?
Cela ressemble à une plainte ou à un pleur ?
Ça y est, j'entends plus distinctement. C'est un verset de la Torah qui est chanté. Dans ta détresse, quand toutes ces choses t'arriveront, tu retourneras vers Hachem et tu écouteras sa voix. Mon Dieu ! Un grand malheur s'est abattu sur les Juifs. Il n'y a qu'un événement tragique qui peut expliquer une prière si intense.
Ma reine, dans toute la ville, un ordre royal concernant les Juifs est affiché.
Oui ?
Ordre est donné à tous leurs ennemis de les anéantir.
Quoi ? Que dis-tu ? Comment est-ce possible ? Mon Dieu, je défaille ! Allez donc chercher Daniel !
Attar, le conseiller de la reine qui n'était autre que Daniel, au service des rois de Babel, arriva.
Vite, presse-toi ! Va trouver mon oncle Mordechai. Demande-lui ce que nous pouvons faire.
Attar chercha longtemps, et alors qu'il se décourageait, il vit sur la place du marché un homme, assis par terre, recouvert d'un sac de toile, en grand deuil, le visage noirci par la poussière. Il reconnut difficilement Mordechai.
Mordechai, c'est la reine qui m'envoie. Pourquoi es-tu ainsi couché dans la poussière? Relève-toi donc, remets tes vêtements de grand juge.
Durant toute la journée, Daniel fit des allers-retours entre Mordechai et Esther.
Cher Hadassa, tu es maintenant reine, la reine Ishtar. Le moment est venu pour toi de dévoiler la vérité. Haman a abusé le roi et ordre est donné de par tout le royaume d'exterminer notre peuple. Va chez le roi, dévoile enfin tes origines et demande ta vie puis la nôtre au roi. Va vite.
Cela m'est impossible. Toute personne qui se présente devant le roi sans y avoir été invitée est exécutée sur le champ, à moins que le roi ne lui tende son sceptre d'or. Or, mon oncle, cela fait plus de 30 jours que je n'ai été convoquée devant le roi. Attendons qu'il m'invite, et alors je plaiderai en notre faveur.
Hadassa, tu commets une grave erreur. Ne t'imagine pas être protégée parce que tu es la reine. Si aujourd'hui tu te tais, demain nous serons sauvés d'une autre manière. Et qu'adviendra-t-il de toi? Crois-tu vraiment que le maître du monde abandonnera ainsi notre peuple? Mais toi, reine Ishtar, seras-tu toujours sur le trône pour être épargnée?
Tu as raison. Rassemble tous les juifs de la ville et jeûnez pendant 3 jours. Reconnaissez vos fautes devant le souverain juge. Que notre Créateur nous garde de tout mal. Priez et jeûnez jour et nuit. Puis, je me présenterai au roi le 3e jour, qui sera le jour de Pessah, jour de miracle depuis toujours. Et si je dois périr, je périrai.
Impressionné par le message d'Ishtar, Mordechai organisa lui-même le jeûne dans la synagogue de la ville. De jour comme de nuit, elle ne désemplissait pas. Il y avait les riches et les pauvres, les grands et les petits, les intelligents et les plus simples. Tout cela venait pour la même raison, reconnaître leurs défauts, s'excuser de leur méchanceté et prier pour pouvoir encore chanter les grands faits de leur souverain maître.
8e partie, l'histoire du sceptre en or.
Le 3e jour du jeûne était Pessah. Ishtar se lava et revêtit ses vêtements royaux. Elle mit des babouches en or, une robe de la soie la plus fine ornée de pierres précieuses d'Afrique et des tuniques serties de joyaux. Enfin, elle posa sur sa tête une couronne de diamants étincelants. Son visage témoignait de sa majesté. Les 3 jours de jeûne et de prière lui donnaient un air d'ange. Sa beauté ainsi que sa détermination la faisaient briller comme le soleil. Suivie de 3 de ses servantes, elle se prépara à affronter toutes les lois de Perse devant le roi. Pour arriver dans la salle du trône, il fallait traverser 7 portes. Ishtar rentra avec tant d'assurance que les gardes ne l'arrêtèrent pas. Avant qu'il n'ait saisi ce qui s'était passé, elle se tenait devant la salle du trône. Les gardes l'entourèrent sans savoir quoi faire. Ils étaient médusés par l'autorité de la reine. Esther priait dans son cœur, des frissons la parcouraient. Elle chancela. Le roi était assis sur son trône, vêtu de ses vêtements royaux. Il tenait dans sa main son sceptre d'or. Il leva les yeux et vit Ishtar en face de lui. Il eut d'abord un choc. C'était la première fois qu'une personne se présentait sans avoir été convoquée. Mais la surprise fut vite remplacée par la colère. Comment la reine avait-elle pu se mettre en danger de mort? Vashti n'était pas venue à sa convocation et cela lui avait coûté la vie. Et aujourd'hui, la reine Ishtar apparaissait sans convocation. Surprenant le regard du roi, Esther défaillit et s'appuya sur une de ses servantes. Un silence de mort pesait sur la salle. Les ministres étaient pétrifiés et n'osaient intervenir. Les gardes, eux, attendaient la confirmation du roi pour tuer Ishtar. La reine les entendit murmurer entre eux. Ils parlaient déjà de se partager ses bijoux. Le roi détourna la tête et les gardes comprirent qu'ils devaient exécuter la reine. Soudain, le visage d'Achashverosh se tourna vers Ishtar, comme sous l'effet d'une gifle. Il la regarda et se calma. Observer sa beauté sereine l'apaisa. En souriant, il tendit vers elle son sceptre d'or.
« Qu'as-tu, reine Ishtar? Pourquoi t'es-tu mise en danger de mort pour venir jusqu'ici ? Pourquoi sembles-tu si faible ? » ?»«
À chacune de vos questions, je répondrai, Majesté, mais pas maintenant. Je voudrais vous inviter à un repas dans mes appartements, vous et Aman.
Eh bien, qu'il en soit ainsi.
Ishtar avait frôlé la mort, mais la première partie de son plan avait marché. Le moment du repas arriva, Aman et Ahasvérosh s'annoncèrent.
Alors, reine Ishtar, que désires-tu ? Jusqu'à la moitié du royaume, je t'exaucerai.
Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et si le roi juge bon d'accéder à mon désir, que le roi et Aman viennent une seconde fois à un autre repas. Demain, je ferai ma requête au roi.
Il attend la consécration. Encore fallait-il le pouvoir. Déjà petit, son père lui dit sois bon. Encore fallait-il le vouloir. Enfin assis sur le trône de sa vie. Aussi fallait-il le garder. Avec Vashti assise tout près de lui. Mais allait-elle y rester? Ahasvérosh, sacré Ahasvérosh, qu'y a-t-il dans sa tête? Il pense qu'à faire la fête.
Alors, ministre de l'Agriculture, comment on les récolte?
Sacré Ahasvérosh, dans sa tête, qui pense qu'à faire la fête.
C'est moi qui décide de tout.
Et quand Ishtar apparaît devant lui, d'un coup il tombe sous son charme. Mais d'où vient-elle? Elle ne lui a pas dit. Il ne voit pas ce qui se trame. Ce mariage plutôt original. Esther va prendre un tas de risques devant le roi contre Aman, son vassal, pour que son peuple existe.
Alors, ministre de l'Agriculture, comment vous les récoltez?
Ahasvérosh, sacré Ahasvérosh, qu'y a-t-il dans sa tête? Il pense qu'à faire la fête. Sacré Ahasvérosh, qu'y a-t-il dans cette tête? Qui pense qu'à faire la fête?
Et la pêche, ministre des ports, est-elle bonne?
Mon grand roi!
Bonsoir, serviteur du roi.
Ishtar, pourquoi m'as-tu fait une insolence?
Bien évidemment, votre majesté.
Il n'y a pas de paix pour les méchants.
Que veux-tu, ma chère Esther? Parle, mais sois sans grâce. Ma grâce. Serviteur, viens donc par ici. Je suis un roi très très intelligent, je ne comprends pas ce qu'il chante.
Ahasvérosh.
Oui.
Sacré Ahasvérosh.
Je suis tombé de mon royaume.
Y a-t-il dans sa tête? Il pense qu'à faire la fête. Badadadada. Ahasvérosh.
Oui, as-tu compris? Pardon, bien, olé.
Ahasvérosh.
Aman sortit ce jour-là le cœur content et jubilant. Malencontreusement, il rencontra Mordechai, qui ne se leva ni bougea devant lui. Arrivé chez lui, il raconta tout à sa femme et à sa famille. Sa femme lui conseilla de faire construire une potence et d'aller ensuite voir le roi pour lui demander d'y pendre Mordechai. En effet, vu les bons termes qu'il entretenait avec Ahasvéros, cela ne ferait aucun doute que ce dernier accepterait. Le conseil plut à Aman, qui donna l'ordre de préparer la potence.
Ne levez pas votre tête, Tataristabim bamboum, devant le fils d'Amalek, Tataristabum.
Neuvième partie, une lecture des archives nationales.
Par une belle nuit de printemps, Ahasvéros dormait paisiblement quand...
Ah, au secours, à mes aïeux, quel horrible cauchemar. Hors de question de me rendormir, j'ai trop peur. Quelle horreur! C'était bien Aman. Il essayait de m'assassiner. Oh, comme j'ai peur! Serviteur, serviteur, où êtes-vous donc?
Oui, votre majestueuse majesté.
Je suis tombé de mon royal lit et je n'arrive pas à me rendormir. Venez donc me lire les archives nationales.
À vos ordres, majestueuse grandeur.
Le 8e mois, jour premier, le roi se lève de bonne humeur, puis le roi prend son petit déjeuner.
Non, pas ce jour, il est ennuyeux, un autre.
Le 3e mois, jour 4e, une réunion s'organise autour du roi au sujet de l'augmentation des revenus du personnel du palais.
Non, autre chose.
Le 10e mois, jour second, attentat perpétré sur la majestueuse personne du roi.
Quoi ? Un attentat ? Lisez donc.
Attentat perpétré par Bigtan et Teresh, malgré les demandes de grâce faites par Aman, les coupables sont pendus. Le complot a été déjoué par Mordechai.
Tiens, mais je ne le savais pas. Et comment a été récompensé ce fidèle et loyal sujet ?
Il n'est nulle part fait mention de récompense.
Demande de grâce de la part d'Aman ? Tiens.
Aman, impatient d'en finir avec Mordechai, se présentait dès l'aurore dans les suites royales.
Mais qui donc est là ?
C'est moi, Aman, votre majesté.
Eh bien, il ne manque pas de culot. Oh, cela me rappelle mon cauchemar.
Roi, mon grand roi, quel plaisir de vous voir. Votre magnificence est-elle bien reposée ? Majesté, si j'osais, je vous dirais que vous êtes le phénix du haut de ces bois. Vous resplendissez.
Ah oui ?
Mais certainement, le pouvoir vous va à ravir.
Dis-moi, puisque tu es là, donne-moi donc un conseil.
Quel honneur, quelle joie, je suis tout oui.
Je désire honorer un de mes fidèles sujets. Quelle est la meilleure manière de le faire, hein?
Mon heure de gloire est arrivée. Voyons, pour votre homme, il faudrait les vêtements du roi. Et le cheval du roi. Voyons, du jour du couronnement, voilà, qu'il soit préparé et habillé par un des ministres du roi. Voilà. Puis, en une belle procession, ce ministre clamera devant lui à travers toute la ville. Ainsi sera-t-il fait à l'homme Tataristabum. Que le roi désire t'honorer, Tataristabum.
Durant son discours, Aman avait complètement oublié qu'il se tenait devant le roi. Il s'était mis à danser et regardait avec envie la couronne. Ahasvéros eut soudain peur d'Aman. Il comprit qu'il avait en face de lui un ennemi et dire que Mordechai lui avait sauvé la vie.
Aman, toi qui as l'air de prendre tellement à cœur cet honneur, apporte la couronne de Macédoine que les habitants de Crane m'ont offerte
le premier jour de mon règne. Va chercher la belle épée dont les sujets éthiopiens m'ont fait cadeau. Prends le manteau que les citoyens d'Afrique m'ont offert. Va chercher le cheval que j'ai chevauché le jour de mon couronnement, le cheval après Amisragaz. Apporte le nécessaire à Mordechai et n'omets rien de tout ce que tu as dit.
Que qui ? Quoi ? Ah, oh, Y craque ! Et quoi ? Pardon, votre royauté ? Qui ? Mordechai ? Quel Mordechai ?
Je te parle de Mordechai, le juif.
Mais il y a beaucoup de juifs qui s'appellent Mordechai,
le juif, celui qui siège à la porte du roi. Ah oui, un dernier détail. Crie bien fort. Ainsi sera fait à l'homme que le roi veut honorer. Cela m'a bien plu.
Ah, mais comment c'est possible ? C'est pas possible ! Impossible !
Aman était paralysé. Mais déjà les gardes l'emmenaient vers les écuries pour qu'il prenne le cheval du roi. Telle une marionnette, il alla trouver Mordechai. Il l'habilla et l'installa sur le splendide cheval. Aman était pâle comme un mort. Il agissait comme une machine. Après avoir fait le tour de la ville, il rentra chez lui et sa femme eut du mal à le reconnaître tant il était recourbé et désespéré. Il lui raconta tout. Alors, un de ses astrologues qui était là lui rappela que Mordechai était juif et que ce peuple avait toujours été protégé. Aman voulait cependant encore se venger. Il n'eut pas le temps de se changer que les gardes du roi se présentèrent pour l'amener au festin organisé par Esther.
Dixième partie, le festin d'Esther.
Ma reine, tu es splendide. Si tu me le demandais, je te donnerais la moitié de mon royaume.
Vous êtes généreux, mon roi. Mais comment profiter de ce royaume si demain je meurs ?
Ne parle pas de malheur. Il n'y a aucune raison, voyons, qu'il t'arrive quelque chose de grave.
Pourtant si, mon roi. Et c'est de ça dont je voulais vous parler.
Je t'écoute.
Puisse-t-on, à ma demande, me faire don de la vie et sauver mon peuple ? Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, exterminés, anéantis.
La reine juive ? Oh non ! Non !
Quoi ? Mais qui est assez cruel et fou pour vouloir s'en prendre à la reine et à son peuple ?
C'est un homme fourbe, vil et mesquin. C'est Aman en personne qui veut notre perte.
Trahison !
Le roi s'était levé précipitamment tant sa colère était grande. Il venait surtout de comprendre une chose extrêmement importante. La prédiction de ses astrologues qu'un juif prendrait la couronne concernait donc le fils même de la reine Ishtar. Ce fils qui lui était né voici 2 ans déjà. Son fils, le légitime héritier de la couronne, Dariavesh II, était juif. Oh, Aman l'avait donc trompé sur toute la ligne. Pendant ce temps, Aman, à genoux devant la reine, s'agrippait à sa jupe et essayait d'obtenir sa grâce. Le roi entra à ce moment.
Traître ! Non seulement tu veux la couronne, mais en plus, tu soudoies la reine ? J'enrage !
Majesté, pardon de vous déranger, mais la potence qu'Aman a dressée pour Mordechai est prête.
La potence ? Pour Mordechai ? Je comprends tes intentions infâmes. Eh bien, on va l'utiliser, ta potence.
Aman fut pendu sur la potence qu'il avait lui-même construite pour Mordechai. Et la fureur du roi s'apaisa.
Attention à vous, pauvres riches, méfiez-vous. C'est moi, Aman plein de sous, qui défile devant vous. Accroupi, mettez-vous, à plat ventre, à genoux. Ne levez pas votre tête devant le fils d'Amalek. Arour, Arour Aman.
Mordechai. Arura, Arura Zeresh. Berucha, Berucha Esther. Arurim kol ha-reshaim. Beruchim kol Yisrael. Arur, Arur Aman. Arur, Arur Mordechai. Y'a pas de paix pour les méchants.
Au lendemain de ces événements, il y eut une sorte de révolution dans tout l'Empire. Les Juifs, qui étaient condamnés à mourir, se retrouvaient soudainement libres et protégés par le roi. Mordechai fut nommé premier ministre et le roi, s'étant réconcilié avec les Juifs, accordait toute sa confiance à Mordechai. Il dormait sur ses deux oreilles. Bref, c'était le monde à l'envers. Mordechai habitait dans la maison d'Aman et envoyait des lettres dans tout l'Empire pour annuler la mise à mort des Juifs. Certains fidèles d'Aman refusèrent ce renversement. Alors Mordechai, avec la permission du roi, ordonna aux Juifs de se libérer de ses oppresseurs et de se défendre contre leur méchanceté. Ainsi, le 13 Adar, au lieu d'être tués, les Juifs tuèrent leurs ennemis et s'en retournèrent chez eux en paix. Le lendemain fut un jour de telle allégresse que Mordechai et Esther prirent une grande décision. Il fallait que cet événement soit célébré par tout le peuple et à toutes les époques. Le 13 Adar, tout le monde jeûnerait, comme l'avaient fait Esther et Mordechai. Et le 14 Adar, on ferait un banquet dans une grande joie. Chaque juif offrirait des michloach manot, des cadeaux qu'on peut manger à ses amis, et donnerait de l'argent aux nécessiteux. La décision fut acceptée par tous, qui ce jour-là se sentirent heureux d'être ensemble. Cette grande fête fut nommée Pourim, à cause du tirage au sort qu'avait fait Aman. Enfin, Esther et Mordechai décidèrent de mettre par écrit tous les événements qui s'étaient déroulés. Il était important qu'on s'en souvienne, car le monde existait voilà longtemps déjà, et il s'était passé un tas de choses depuis sa création. Pourtant, certaines histoires ne devaient pas être oubliées. De génération en génération, on les raconterait, et elles devaient arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Elles seraient toujours présentes dans nos maisons. Voici le récit de l'une d'entre elles.
Cette histoire-là n'est pas venue comme ça. Le hasard, il n'y en a pas. Le monde est bien trop beau pour ça. Et tout autour de nous, et tout autour de nous, il n'y a pas que nous. Cette histoire-là montre comment un roi n'impose pas toutes ses lois. y a quelque chose qui le dépasse. Et tout autour de nous, et tout autour de nous, il n'y a pas que nous. Cette histoire-là s'adresse à toi, s'adresse à moi, qu'on n'oublie pas que le monde a son roi. Cette histoire-là s'adresse à toi, s'adresse à moi, qu'on n'oublie pas que le monde a son roi. Cette histoire-là n'est pas venue comme ça. Le hasard, il n'y en a pas. Le monde est bien trop beau pour ça. Et tout autour de nous, et tout autour de nous, il n'y a pas que nous.
ליהודים הייתה אורה, אורה ושמחה וששון ועיקר. ליהודים, ליהודים הייתה אורה, אורה ושמחה וששון ועיקר. ליהודים, ליהודים הייתה אורה, אורה ושמחה וששון ועיקר. ליהודים, ליהודים הייתה אורה, אורה ושמחה וששון ועיקר. ששון ועיקר, כן, כן, כן יהיה, כן יהיה לנו אור זמחה וששון ועיקר. יו
מרדכי יצא מלפני המלך, והנה ראש מלכות ותרזה. ומרדכי יצא מלפני המלך, והנה ראש מלכות ותרזה. מרדכי יצא מלפני המלך, והנה ראש מלכות ותרזה. מרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות ועטרת זהב. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ועיקר. 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 חייבין יש לי וסומי לי וסומי לי וסומי, חייבין יש לי וסומי לי וסומי לי וסומי. אוי יד יד לא ידע, יד יד לא ידע, יד לא ידע, יד לא ידע, יד לא ידע, לא ידע, יד יד לא ידע, יד לא ידע.
L'équipe Torah Box et tous ses rabbanim vous souhaitent un chaleureux Pourim Sameach, une joyeuse fête de Pourim dans la joie pour vous et vos proches. Et pour toute réalisation des mitzvot de Pourim, n'hésitez pas à nous appeler gratuitement au 01 80 20 5000.